Vous écoutez France Culture.
Il est 18h30, vous écoutez l'émission sur France Culture. Tout de suite, du grain à moudre, programme ce soir de Julie Clarini et de Brice Couturier. Ce thème, les classes moyennes vont-elles payer pour la crise ? Julie Clarini.
Oui, Laurent, nous sommes ce soir avec quatre invités. Louis Chauvel, Camille Peny, Véronique Langlois et Eduardo Narduzzi au téléphone depuis l'Italie. C'est du grain à moudre.
Les classes moyennes ont été les grandes gagnantes des 30 glorieuses. La forte croissance de ces années dorées a créé de fortes opportunités d'ascension sociale grâce auxquelles deux générations successives ont été aspirées vers le haut. Quelque part entre le milieu des années 70 et celui des années 80, le processus s'est enrayé. Avant même que n'éclate la crise actuelle, d'excellents esprits avaient mis en garde contre le sentiment de stagnation, voire de déclassement, éprouvé par cette France du milieu. Emmanuel Todd écrivait en 2005 « La vraie nouveauté, c'est l'entrée en fureur des classes moyennes ». Louis Chauvel repérait en 2006 l'arrêt du processus de moyennisation à l'œuvre depuis la fin de la guerre. L'époque où chacun pouvait espérer atteindre le niveau de revenu de la catégorie sociale immédiatement supérieure était derrière nous, écrivait-il dans « Les classes moyennes à la dérive ». Mais le phénomène n'est pas propre à la France, comme l'ont montré Massimo Gaggi et Eduardo Narduzzi. Les classes moyennes sont les héritières du tiers-État. Depuis la Révolution, c'est sur leur confiance envers le système politique et social que reposent nos démocraties. Or, ces classes moyennes pressentent qu'elles vont devoir payer pour des excès spéculatifs dont elles n'ont pas bénéficié, régler la facture d'une crise dont elles ne sont pas responsables. Les dettes astronomiques des banques sont en train d'être transférées aux États, fort bien. Demain, il faudra rembourser, soit par une hausse massive des impôts, soit par une inflation qui ruinera les petits épargnants. Est-ce la raison de la sourde colère des classes moyennes que diagnostique aussi bien Jean-Marc Leck, le coprésident d'Ipsos, qu'Alain Gérard Slama ? Le premier parle dans l'Express d'une société qui, n'attendant plus rien de l'autorité, assume son dérèglement sans culpabilité. Le second écrit dans le Figaro que le principal sujet d'inquiétude actuel, c'est le recul au sein des classes moyennes du sens de l'intérêt général et la méfiance à l'égard des institutions. Et il évoque le spectre de classe, je le cite, disponible pour un totalitarisme d'un nouveau type.
Alors nous en débattons avec Louis Chauvel, qui est sociologue, professeur à Sciences Po, qui est le grand spécialiste des inégalités et des dynamiques générationnelles. Il est l'auteur notamment de cet ouvrage qui date de 2006 maintenant, « Les classes moyennes à la dérive », mais qui est en plein dans le sujet de ce soir. À ses côtés, Camille Peny, qui est également sociologue, maître de conférences à Paris 8 et qui vient de publier un ouvrage chez Grasset qui s'intitule « Le déclassement ». Avec nous également en studio, Véronique Langlois, qui est fondatrice et co-dirigeante de la société Free Thinking. Alors, il faudrait peut-être dire un mot de ce laboratoire Free Thinking, Véronique Langlois.
Oui, en fait, Free Thinking est un laboratoire de conseil et de recherche 2.0 que j'ai donc créé avec Xavier Charpentier il y a à peu près 2 ans, sachant que l'idée, c'était d'utiliser le web pour mieux écouter les consommateurs et à partir de là, mieux conseiller les entreprises.
Voilà, et à partir de ce que vous avez rassemblé, vous avez publié les nerfs solides, Parole à vive de la France contemporaine aux éditions Nouveau Débat Public, ça vient de sortir là en mars dernier. Et puis enfin au téléphone, nous sommes avec Eduardo Narduzzi, qui a plusieurs casquettes, comme on dit, professeur en technologie de la communication à l'Université de Rome, chef d'entreprise, journaliste et co-auteur avec Massimo Gaggi de La fin des classes moyennes ou l'avènement de la société low cost. C'était paru aux éditions Liana Levy en 2006.
Alors Louis Chauvel, c'était un sentiment d'ascension sociale collective, dont on peut dire qui unifiait les classes moyennes durant les 30 glorieuses. Or, il existe à présent, tout le monde le dit, vous l'avez écrit, un sentiment collectif de déclassement. Pour être plus précis, le niveau d'éducation et de formation n'a cessé de s'élever, tandis que les possibilités d'insertion professionnelle ne cessaient de se réduire. Marie Durubella a parlé de la désillusion de la méritocratie. Vous, vous aviez montré dans votre fameux bouquin « Le destin des générations » que la carrière que chacun pouvait espérer était fonction de son année d'entrée sur le marché du travail. Comment se présentent les choses pour les étudiants qui vont se présenter sur ce marché du travail en septembre de cette année, dans 3 mois ?
Oui, nous allons au-devant d'une situation certainement très intéressante pour tous les analystes de la question sociale, simplement parce que nous avons, comme d'habitude, une cohorte de 800 000 jeunes qui vont se présenter devant le monde du travail, et la situation de l'emploi n'a jamais été aussi néfaste, même depuis les années 74, il faut remonter à bien plus loin pour trouver une conjoncture de recrutement aussi difficile. En fait, pour dire assez rapidement les choses, nous trouvons véritablement dans une situation où la nouvelle génération n'a jamais été aussi massivement éduquée. 25% d'accès à la maîtrise aujourd'hui. Alors même que nous trouvons face à une certaine forme de backlash, pardon, de retour de manivelle, de l'upgrading, pour parler comme les Anglais, de la mobilité sociale ascendante ou de la transformation sociale vers les catégories sociales les plus élevées. Ce qui fait que nous allons avoir un très grand nombre de jeunes qui, du point de vue de leur diplôme, sont et se sentent membres des classes moyennes, mais qui, du point de vue de la réalité sociale qui va être la leur, se trouvent dans une toute autre catégorie, soit dans celle des travailleurs précaires, tremblants pour ou ignorant totalement leur avenir et leur devenir, ou bien alors n'ayant ni présent ni devenir. La situation est donc celle d'une fragmentation certainement extrêmement forte, entre celles et ceux qui, par soutien familial ou autre, parviendront malgré tout à trouver leur place dans la société, et par ailleurs la masse des autres qui, contrairement à leurs parents, ne vont pas connaître une situation où il suffit d'être diplômé pour trouver une place dans la société. Naguère, dans les années 60, avec un bac plus 1, on devenait instituteur. Aujourd'hui, avec un bac plus 5, on peine à devenir instituteur, et la situation est celle, en quelque sorte, d'une réversion de la tendance de moyennisation. Naguère, nous avions des forces centripètes. Les classes moyennes ont toujours été fragmentées, mais elles allaient vers une cible de stabilisation, d'institutionnalisation et d'une cible allant vers le haut, et elles se rassemblaient vers le haut. Aujourd'hui, c'est le trajet inverse de classe moyenne fragmentaire et de plus en plus fragmentaire et de plus en plus centrifuge, dont certains fragments peu nombreux vont continuer leur ascension et d'autres vont connaître des sorts nettement moins favorables.
Alors, on a employé déjà depuis le début de cette émission à plusieurs reprises le terme de déclassement. Ça me permet de vous donner la parole, Camille Peugny, puisque vous venez de publier un ouvrage qui porte ce titre. Qu'est-ce qu'on appelle en fait le déclassement? Est-ce qu'on parle en termes de revenus? Est-ce qu'on parle en termes de statut? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Quand, par exemple, on parle des instituteurs, effectivement, il faut aujourd'hui bac plus 3 pour être instituteur, mais peut-être qu'en termes de revenus, on reste sur des niveaux équivalents. Il faudrait y réfléchir. Et est-ce qu'on ne peut pas reprendre cette grille de lecture qu'on a eue pour la question de l'insécurité et dire qu'il existe, comme on disait qu'il existait l'insécurité, le sentiment d'insécurité, le déclassement et le sentiment de déclassement?
Alors en fait, effectivement, depuis plusieurs années maintenant, et encore plus depuis quelques mois, la question du déclassement est tout à fait omniprésente dans le débat public. Et on se souvient par exemple des deux candidats principaux aux dernières élections présidentielles qui n'avaient de cesse de décrire une France du déclassement, une France tirée vers le bas. Et là, effectivement, on n'était pas dans une définition précise, on était plutôt dans un sentiment qui, pour une large part, était avéré, il suffisait d'interroger les Français, mais qui n'était pas clairement défini. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de donner une définition précise du déclassement qui permette de le mesurer et de répondre à la question dans quelle mesure notre société de la fin des années 2000 est une société du déclassement. Et donc la définition que j'ai choisie, c'est de comparer la situation professionnelle des générations qui sont nées dans les années 60 à celle qu'occupait à leur âge la génération de leurs parents. Et on s'aperçoit effectivement que massivement, les jeunes générations aujourd'hui connaissent une réussite sociale beaucoup moins favorable que leurs parents, avec quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui est que les enfants des classes moyennes, on va dire, sont de plus en plus souvent confrontés au déclassement, c'est-à-dire ils deviennent de plus en plus souvent ouvriers ou employés non qualifiés, mais que les enfants d'ouvriers eux-mêmes ont des perspectives de mobilité ascendante qui aussi diminuent, c'est-à-dire que, en d'autres termes, le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. On aurait pu penser que si de plus en plus d'enfants de cadres moyens deviennent employés ou ouvriers, très bien, c'est le prix à payer pour que l'ascenseur social fonctionne vers le haut pour les classes populaire. Or, on se rend compte, comme le disait Louis Chauvel à l'instant, qu'on est en présence vraiment d'inégalités entre les générations et que cette dégradation des perspectives de mobilité sociale s'impose aux enfants de toutes les origines sociales. Et donc, on est vraiment en présence d'un mouvement tout à fait important de déclassement.
Donc on est dans la situation décrite par le descenseur social il y a deux ans, qui avait eu un tel succès. Mais je voudrais demander à Véronique Langlois qu'on définisse un petit peu, pour nous aider à définir un petit peu mieux la notion de classe moyenne. Les classes moyennes, si je vous ai bien lu, ont un trait commun, c'est que ce sont des gens, quel que soit le niveau de revenu, en gros, qui tirent leur revenu du travail et non pas de leur rente, de leurs investissements, etc., ni de l'assistance. Ces gens qui se trouvent entre les deux, donc ceux en fait qui payent des impôts. Or, ils ont le sentiment, écrit vous que leur travail n'est pas rétribué à proportion de l'investissement qu'ils consentent dans leur travail, puisque les pressions sur le travail sont de plus en plus fortes, et ce sentiment qu'on leur demande toujours plus pour des revenus qui semblent donc stagner, est-ce qu'il est fondé à votre avis?
Il est fondé dans la mesure où les gens que nous avons interrogés ont même pris la peine à chaque fois de développer énormément leur point de vue, de décrire des réalités de vie avec beaucoup de précision. Les gens nous donnent des choses extrêmement simples. Ils nous disent effectivement qu'aujourd'hui, ils sont en phase de paupérisation extrême, avec, selon eux, des dates extrêmement claires qui sont le passage à l'euro, qui pour eux a véritablement laminé leur pouvoir d'achat, avec effectivement des exemples à l'appui, c'est-à-dire des produits de base qui ont littéralement explosé, et ils sont capables effectivement de nous donner le prix du kilo de tomates qu'on payait il y a quelques années et le prix aujourd'hui. Donc un système effectivement de passage à l'euro qui a laminé leur pouvoir d'achat, une vraie stagnation des salaires. Là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser quand quelqu'un nous dit, voilà, moi avec Chouchou, ça fait 9 ans qu'on n'a pas été augmenté. On peut imaginer que si entre-temps, elle a eu la chance avec Chouchou d'avoir un ou deux enfants, bah, on voit très bien effectivement ce qui peut se passer. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, par rapport à ce dont on parle, le déclassement, finalement, c'est nous une autre forme de déclassement qu'on observe depuis 2 ans. Je ne sais pas si c'est juste de parler de ça, mais on peut dire finalement une forme de déclassement quotidien. C'est-à-dire que c'est chaque jour et un peu plus chaque jour que les Français de classe moyenne se sentent vivre comme des pauvres et se sentent d'une certaine façon exclus d'une société de consommation dans laquelle ils avaient le sentiment jusqu'à présent de pouvoir vivre de façon assez confortable avec effectivement des perspectives d'ascension sociale. Or aujourd'hui, c'est bien ça ce dont il est question, le fait de ne plus pouvoir se payer cette société de consommation et derrière d'avoir, dans leurs mots, une vision assez dramatique finalement de l'évolution de la société, alors avec une vision extrêmement simplifiée des choses. D'un côté, les riches qui pourront continuer à se payer la société de consommation, la société des loisirs, les marques. Et puis de l'autre côté, les pauvres qui n'auront plus accès à cette société, pour qui le concept de société de loisirs va s'éloigner de plus en plus. Et qui effectivement, pour rejoindre le titre de l'ouvrage de votre autre invité, ne peuvent que se payer ce qui est low cost, alors comme le discount, avec lequel, par exemple, qui est un bon exemple, avec lequel ils entretiennent un rapport extrêmement paradoxal. À la fois, le discount, c'est un super compagnon de crise pour gérer au plus serré son budget, et puis en même temps, c'est juste ce qui vous renvoie à la figure, le fait de ne plus pouvoir participer à la même société.
Le déplacement. Alors, parlons un petit peu de la situation en Italie avec vous, si vous nous entendez, Eduardo Narduzzi. Vous, précisément, vous vous intéressez précisément beaucoup aux aspects de consommation des classes moyennes, et vous avez tendance à nous dire qu'en Italie, comme en France, c'est la même chose, et qu'en plus, la classe moyenne italienne, elle est, comme dans les pays anglo-saxons, en voie d'implosion par le haut et par le bas, et qu'on n'est plus dans des sociétés de classe moyenne, mais dans des sociétés de classe de la masse. Qu'est-ce que vous entendez par ça?
Bon, nous entendons une classe nouvelle qui s'est formée depuis des années maintenant, et on l'a définie comme ça il y a 4 ans, et la crise qui est en marche, qui se déroule maintenant, confirme la vision que nous avions il y a 4 ans, parce que il y a une classe de la masse qui est la chose dans laquelle on retrouve tous les travailleurs, les ouvriers qui étaient partagés en précédence, et au-dessus de la classe de la masse, il y a une nouvelle aristocratie des salariés très riches qui sont entrepreneurs de la connaissance ou travailleurs de la connaissance, et en bas il y a la classe des personnes qui peuvent survivre, qui peuvent gagner et acheter quelque chose parce que ils ont des transferts de l'argent qui arrive de l'État. Comme ça, la classe de la masse, c'est une classe très, faible avec pour des liaisons politiques. C'est une classe très opportuniste qui veut consommer, qui veut avoir des opportunités d'achat, des loisirs, et qui a une instabilité dans les rapports avec le travail. Ils n'ont plus les conditions favorables de travail qu'il y avait la classe moyenne il y a quelques ans.
C'est-à-dire qu'il y avait une certaine visibilité dans les revenus qui, effectivement, est perdue dans les classes moyennes. Le processus de moyennisation, comme on l'a appelé comme pendant longtemps, se traduisait notamment, Louis Chauvel, par une uniformisation des modes de vie. Dans son ouvrage, Camille Pony rappelle le fameux barbecue de Mandras, autour duquel progressivement tous les Français, comme tous les Américains dans les années 60, devaient converger dans une espèce de convergence de tous les modes de vie. Or, nos sociétés, en réalité, ressemblent de plus en plus à une juxtaposition de ghettos où chaque groupe cultive sa spécificité, c'est ce que Éric Morin a appelé l'entre-soi, et où chaque groupe se méfie des autres et cherche à éviter le contact. Alors, le concept de classe moyenne a-t-il encore un sens? Interroge par exemple Serge Bosque. La question mérite d'être posée. Louis Chauvel, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau culturel aussi, il y a une espèce d'explosion de la classe moyenne, que c'en est fini de cette moyennisation qui nous faisait converger autour du barbecue?
Oui, je pense qu'il faut effectivement revenir sur la définition de la question même de la moyennisation et des classes moyennes dont nous sommes les héritiers 30 ans, plus de 30 ans après les années 70 maintenant. Que se passait-il à l'époque? Il se passait à l'époque que le travail salarié intermédiaire qualifié ou le travail éduqué permettait de mener confortablement son existence et de connaître une mobilité sociale ascendante avec une visibilité croissante des statuts et des conditions d'emploi et de constitution de son avenir. Les années 70, c'était des années où, avec un âge de fin d'études de l'ordre de 20 ans, on faisait déjà partie des classes moyennes un peu supérieures qui allaient avoir une retraite, qui avaient une santé, un système social de référence en construction et qui allaient envoyer leurs enfants au-delà de la maîtrise et bien au-delà si tout se passait bien, et en général tout se passait plutôt bien. En fait, lorsque on débat des classes moyennes, nous avons en vue les nouvelles classes moyennes des années 70, qui sont ces salariés de la grande entreprise, notamment du secteur public, de l'État, dont les conquêtes salariales en quelque sorte diffusait ensuite dans toutes les autres classes de la société, en particulier vers les catégories populaires, qui, par l'ascension des classes moyennes, pouvaient suivre le chemin par une espèce d'effet de capillarité ou d'aspiration vers le haut dans la structure sociale. Et ces nouvelles classes moyennes salariées, notamment du public ou du parapublic ou de la grande entreprise, et ainsi de suite, donnaient en quelque sorte la direction de la société. Et en plus, ils sont parvenus au pouvoir en 1981 pour parvenir à ce que Alain Touraine aurait appelé la maîtrise de l'historicité de l'ensemble social. En fait, depuis une dizaine, quinzaine d'années, nous sommes totalement dans le reflux de tout cela. C'est-à-dire que ce que nous avons appelé naguère dans les années 70 nouvelle classe moyenne, dire que c'est nouveau, cela fait doucement ricaner beaucoup de collègues, simplement parce que ce n'est plus là que se trouve la dynamique sociale. Pour les gens qui analysent, comme Camille Pony, comme beaucoup d'autres, la structure sociale d'aujourd'hui, le point chaud de développement et de dynamique sociale, culturelle, économique et politique, ce ne sont plus les catégories intermédiaires éduquées des années 60, des années 60-70. Ce sont plutôt les emplois à statut plutôt insécure, mais avec par ailleurs plutôt du patrimoine que de l'éducation. On a parlé à l'instant, Eduardo Narduzzi a parlé de société de connaissance, mais attention, c'est pas société de savoir, c'est société de connaissance, c'est-à-dire je connais un tel qui connaît un tel, ce qui me permettra, cette société de connaissance ou d'interconnaissance ou d'initiés ou de capitaux sociaux accumulés permet effectivement d'ouvrir les bonnes portes que des gens bardés de diplômes ne parviendront pas à ouvrir s'ils ne connaissent pas la bonne personne. Mais surtout, le point important relève de ce que l'on appelle la repatrimonialisation. Dans les années 70, il était possible de faire une carrière ascendante que par le diplôme et une carrière salariale ascendante. Aujourd'hui, pas de patrimoine, pas de ressources économiques de famille, pas de perspective d'ascension, c'est quelque chose d'extrêmement visible. En fait, ce qui est intéressant,
c'est
que
logement en particulier.
On pense bien évidemment au logement, et c'est plus vrai encore depuis septembre dernier. C'est-à-dire que les parties les plus sensibles, les plus déstabilisées des nouvelles classes moyennes, des anciennes nouvelles classes moyennes aujourd'hui, ce sont en fait ceux qui ont contracté un lourd emprunt au cours des années récentes, dans l'espoir de voir ce qu'ils achetaient à 500 000 euros valoir 1 million d'euros dans les 5 ans, ce qui aurait été possible dans les temps anciens, et qui constatent que leur banque leur veut toujours 500 000 euros, mais ça ne vaut plus que peut-être 400 000, peut-être 350 000. Ils ont perdu une certaine, peut-être une décennie de temps de travail dans l'opération. En fait, cette dynamique-là, elle est nouvelle en France. Elle a fait l'objet d'un certain nombre de contestations de la part d'analystes des sciences sociales. Mais pour ceux qui voyagent un petit peu, l'exemple de l'Asie du Sud-Est, à la suite du crash boursier de 1997, a donné un premier exemple de ces nouvelles classes moyennes totalement bousculées par un crash boursier. Le logement perd 70% de sa valeur. Ils avaient 90% d'entêtement sur le logement. Ils pensaient pouvoir payer facilement l'ensemble de leur retraite par des salaires croissants, sauf que leur employeur les licencie à la suite du crash. Et ils se retrouvent devoir 30 ans de leur existence à une banque pour rien. Et cette situation, nous n'y sommes pas encore en France, mais cette situation-là décrit parfaitement ce qui peut advenir à une partie non possédante de famille, des nouvelles classes moyennes, alors qu'en revanche, si papa-maman vous offre 100 mètres carrés dans Paris intramuros et que vous n'avez rien à rembourser, ça va, enfin, il n'y a pas trop d'angoisse à se faire. Effectivement, l'exemple d'Asie du Sud-Est est à cet égard extrêmement intéressant, mais c'est vrai que pour notre débat français sur la dynamique des classes moyennes, un autre pays est extrêmement intéressant, c'est l'Argentine, qui a connu dans les années 50 une expansion salariale de catégories industrielles et de banques et de services publics et de grandes entreprises parapubliques extrêmement vives dans les années 50. Et c'est une société où ces classes moyennes, ces nouvelles classes moyennes des années 50 ont connu une explosion entre-temps, se sont effondrées sur le prolétariat, qui n'en a tiré aucun bénéfice. Comme le disait Camille Penny, la chute des classes moyennes ne bénéficie pas nécessairement aux catégories populaires, tant s'en faut. On le voit très bien dans les licenciements actuels, de toute façon. Et la situation argentine a été celle où vous avez une immense nouvelle classe moyenne d'avocats, d'architectes, de sociologues, par leur diplôme. L'ennui, c'est qu'ils sont chauffeurs de taxi, ils sont distributeurs de frites au coin de la rue, et vous avez effectivement une indescriptibilité de l'organisation sociale argentine avec une non-correspondance entre les diplômes et les véritables activités.
Mais justement, vous prenez deux exemples, l'Asie du Sud-Est et l'Argentine, où on peut dire que les sociétés sont encore relativement souples, relativement plastiques à des changements comme ça. Comment est-ce qu'une vieille société comme la société française, attachée à ses statuts, Brice Couturier dirait à ses privilèges, à ses petits privilèges, peut absorber un scénario catastrophe tel que vous nous décrivez et dont on espère qu'il ne se réalisera pas, en tout cas avec cette ampleur. Véronique Langlois, dans ce que vous avez recueilli comme témoignage de la part des internautes, est-ce qu'il y a un sentiment de révolte politique? Est-ce que ça se traduit politiquement par justement une forme de rébellion, par exemple?
Non, pas par une forme de rébellion, bien sûr de la colère, beaucoup de colère, parce que c'est vrai que ce à quoi sont véritablement attachées les classes moyennes, et c'est ce qui est vraiment aussi ressorti comme quelque chose de très fort, avec un sentiment d'appartenance très fort, c'est la dimension liée à la valeur travail, c'est-à-dire effectivement des gens qui travaillent, mais dont le fruit du travail ne leur permet pas de vivre correctement. C'est aussi l'équité, le fait effectivement à un moment donné précisément de se définir aujourd'hui comme pas assez riche pour vivre bien et pas assez pauvre aussi pour bénéficier des aides, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement remontés contre ce qu'ils appelleraient volontiers les mauvais pauvres. Donc je dirais que tout ça crée un sentiment de colère extrêmement fort, qui ne se traduit pas par de la révolte, parce que ce sont ces Français, et c'est effectivement pour cette raison aussi qu'on a appelé l'ouvrage Les Nerfs Solides, ce sont des Français extrêmement résistants, qui aimeraient effectivement ne pas croire en ce scénario catastrophe d'une société totalement simplifiée à laquelle ils n'ont plus véritablement accès. Donc ce sont plutôt des gens qui vont avoir tendance à être extrêmement favorable aux réformes. Alors, pas les réformes n'importe comment, bien sûr, les réformes avec cette volonté qu'elles permettent demain redéfinir un modèle de société fondé sur la solidarité, la responsabilité, l'équité, et qu'elles permettent effectivement de revenir à des valeurs qu'ils considèrent aujourd'hui comme bafouées. C'est vrai, en revanche, que la crise actuelle, qui n'est au fond pas au départ leur crise, puisque la leur, c'est celle, effectivement, plutôt, on va dire, du pouvoir d'achat, tel qu'ils le définissent, c'est vrai que la crise actuelle ne fait que durcir, je dirais, la pente descendante sur laquelle ils sont, avec quelque part un deal qui s'est brisé, c'est-à-dire que ces Français ont accepté pendant de nombreuses années de vivre difficilement dans l'espoir de lendemain meilleur. Et les lendemains meilleurs, c'était aussi le fait qu'à un moment donné dans le contrat, c'était le 0% de chômage en quelque sorte. Or aujourd'hui, la donne est modifiée et c'est vrai que quelque part les perspectives se sont considérablement assombries pour eux. Le deal a été rompu, donc je dirais que la rébellion, non, pas encore, même si on est sur un schéma déjà différent de ce qu'il était il y a encore 6 mois, on continue encore plutôt effectivement à être en faveur, je dirais, de vouloir un grand changement. Pas forcément une révolution, mais un changement tout de même.
Oui, vous écrivez que les classes moyennes voient la crise comme une opportunité de réformer le système dans un sens qui leur soit moins défavorable. Mais ça rejoint là la thématique du livre de Camille Peny, qui, le déclassement, qui nous explique en réalité que les classes moyennes traduisent politiquement par leur sentiment de frustration par rapport aux espérances qui étaient celles des générations précédentes, immédiatement précédentes. Comment se traduit cette frustration politique? Et à votre avis, face à la crise dont, encore une fois, je pense que vous serez d'accord avec moi, les classes moyennes ont le sentiment qu'elles ne sont pas responsables, mais qu'elles vont devoir payer pour la résoudre, comment ça va se traduire sur le plan de l'expression politique?
Alors en fait, effectivement, il y a deux manières de voir la situation, la grande déstabilisation des classes moyennes aujourd'hui. On peut dire que les difficultés des classes moyennes sont dues à la crise qui sévit plus ou moins depuis un certain nombre d'années. Mais en réalité, on peut lire à la fois ces inégalités entre les classes sociales et les inégalités entre les générations à l'aune d'une autre grille de lecture, qui est qu'on est passé, pour dire les choses très rapidement, des 30 glorieuses, où il y avait une société où le capitalisme était traditionnel, où il y avait un compromis social. Certes, il y avait de fortes inégalités, mais il y avait un compromis social qui n'était pas tout à fait défavorable aux salariés. On est passé de cette société-là à des mutations profondes du capitalisme. Alors, peu importe, on peut l'appeler capitalisme financier ou d'une autre manière, mais on est passé à un autre type de société qui se traduit par une phase de la production et donc une place accordée aux salariés qui est beaucoup moins grande. Daniel Cohen donne des chiffres, par exemple, qui sont tout à fait impressionnants. Quand vous achetez une basket 70 euros, une paire de baskets 70 euros aux États-Unis, en réalité, la part du salaire qui revient à celui qui l'a fabriqué, ça doit être 2 euros, et le reste, c'est les coûts de conception et les coûts de distribution à l'échelle de la planète. Donc, on passe vraiment d'un capitalisme traditionnel à une nouvelle forme de capitalisme, à l'aune desquelles on peut lire ces inégalités entre les générations. Et en même temps que ce mouvement, on a un mouvement d'individualisation. Et on vit dans des sociétés qui individualisent le succès. C'est-à-dire, si j'ai réussi, ma foi, je ne le dois qu'à moi-même. Et le corollaire malheureux, c'est que si j'échoue, je le dois aussi qu'à moi-même. Donc, je suis le seul responsable de mon échec. D'où l'absence de mobilisation, etc. Mais ce qui se passe parmi ces générations qui ont 35-40 ans aujourd'hui et que j'ai interrogé, c'est que d'abord ils sont très hostiles au libéralisme économique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont employés, ils sont ouvriers, ils sont au mieux profession intermédiaire et en tout cas ils savent que, ou ils ont le sentiment que du jour au lendemain ils peuvent perdre leur emploi. Donc de manière assez logique, ils veulent que l'État contrôle les entreprises, etc. Donc forte hostilité au libéralisme économique, mais effectivement, comme le disait Véronique Langlois, dans un autre mouvement, très forte hostilité à tous ceux qui sont exclus du travail et qu'ils appellent les assistés, les profiteurs, et on a le développement d'un sentiment qui est tout à fait, mais qui est d'une violence vraiment inouïe, qui est les injustices de proximité qui deviennent insoutenables. C'est-à-dire qu'on ne va pas se comparer au PDG qui va gagner des centaines d'années de SMIC en un an, mais on va se comparer à son voisin qui travaille 2h30 de moins par semaine et qui gagne 14 euros de plus par semaine, et on va trouver que cette inégalité est tout à fait inacceptable. Et donc il n'y a plus effectivement, il y a un morcellement des conditions qui fait que sur le plan politique, à mon sens, cette montée du déclassement explique ce que j'appelle de manière sans doute très maladroite la droitisation de la société. Quand on travaille sur les chiffres de 2002, on s'aperçoit que les individus qui ressentent un sentiment profond de déclassement votent pour Jean-Marie Le Pen à hauteur de 35%, ce qui est quand même tout à fait considérable. Droitisation aussi, discours de Nicolas Sarkozy très à droite, très assumé en 2007, et droitisation aussi d'une partie du discours de la gauche qui va essayer de parler d'assistanat, qui va à son tour employer un langage qu'elle n'employait pas encore il y a quelques années. Donc vraiment, sur le plan politique, c'est difficile de voir des effets tout à fait univoques, mais effectivement, il y a une recomposition tout à fait originale, très grande hostilité au libéralisme économique, mais en même temps très forte critique des exclus, ce qui fait effectivement des effets politiques tout à fait détonnants.
Edoardo Narduzzi, est-ce que vous constatez le même genre de phénomène, la droitisation de l'électorat sous les coups du déclassement social en Italie? Est-ce que ça explique le succès de Berlusconi, par exemple?
Oui, ça peut être une explication de la situation du déclassement, mais je crois que la question fondamentale, c'est une autre. Est-ce qu'on a encore besoin d'une classe moyenne aujourd'hui dans l'économie que nous avons et dans la société que nous avons? Parce que la classe moyenne était parfaite pour une économie manufacturière, industrielle. Peut-être non, parce que les capitaux ont besoin de détruire à la fin d'une période de croissance les équilibres qui ont été rejoints. Et pour détruire des équilibres, il faut avoir une société fluide et une société démassifiée avec une classe de la masse, comme nous l'appelons. En plus, la classe moyenne était parfaite pour financer l'État-providence ou l'État social. Je ne sais pas si on a la possibilité de continuer à payer pour l'État-providence quand il n'y a plus la classe moyenne qui était la classe qui pouvait, avec les impôts, payer la construction de l'État-providence qu'on a créé en Europe il y a des années. Comme ça, je crois que la droitisation, c'est un phénomène qu'on peut expliquer avec le déclassement, mais qui a des explications aussi avec l'organisation sociale et politique européenne qui, en quelque manière, pousse pour un changement des déséquilibres que la classe moyenne ne veulent pas de la même manière que les capitaux ou des autres membres de la société veulent. Et comme ça, je crois qu'on va avoir des conflits en Europe entre générations qui sont plus douloureux et plus importants qu'aux États-Unis ou en Asie. Ça, c'est l'évolution que je vois dans les années qui viennent, dans le déclassement de la européenne.
Je retiens une des choses que vous disiez alors, Donaldo, c'est qu'on est passé d'une société de classe sociale à une société de la masse. Or, si je me souviens bien des analyses d'Anna Arendt, et ça rejoint quelque chose que je citais dans mon chapeau, quand on passe d'une société de classe à une société de masse, les classes sociales ont des intérêts précis et négociables, alors que la masse est indistincte et prête à toutes les aventures. C'est ce que disait Alain Gérard Slama dans le billet que je citais tout à l'heure. J'ai cité Jean-Marc Lesch et j'ai cité Alain Gérard Slama, mais j'aurais pu en citer d'autres qui convergent aussi dans l'idée qu'il y a un décrochage des classes moyennes, pas dans le sens où ses membres ont simplement le sentiment d'une chute d'un hiérarchie des revenus, des positions et professionnelles, mais aussi au sens d'une perte de confiance globale envers le système. Qu'en pensez-vous, Louis Chauvel?
Ce qui me semble, c'est qu'on néglige un petit peu les différences entre sociétés. Nous avons effectivement d'un côté l'exemple de l'Italie, de l'Espagne, de la France aussi, qui avec l'ensemble de ces pays, on va dire méditerranéens ou du sud de l'Europe, connaissent à peu près les mêmes problèmes, notamment vis-à-vis de leur nouvelle génération. Les mileuristas en Espagne, ces jeunes titulaires d'un master et qui sont destinés à ne gagner 1 000 euros par mois sur tout
toute leur existence sans progression. Et avec 1000 euros en Espagne, on ne peut pas se loger. La génération à 600 euros en Grèce, on a la même chose en Italie. Et la génération précaire en France montre à peu près la même dynamique. Nous avons, par le renouvellement générationnel, une très forte déstabilisation de ces nouvelles classes moyennes éduquées qui sont effectivement moyennes par leur diplôme et tout autre chose, beaucoup plus bas, par la réalité de leur statut et de leurs revenus. Mais tout cela néglige quand même beaucoup l'Europe du Nord, où, même s'il y a eu des réformes assez fortes, un accroissement des inégalités économiques, certes, l'ensemble de ces réformes dans les pays d'Europe nordique se gèrent de façon négociée, organisée, avec un maintien de très forts taux de syndicalisation et avec une construction collective d'un avenir que l'ensemble de la société et l'ensemble des citoyens peuvent se donner. Et on a là l'exemple de sociétés qui, face aux mêmes difficultés que les nôtres, parviennent à conserver le contrôle de l'État-providence et le contrôle du développement social et humain de leur civilisation.
Donc la classe moyenne subsiste,
la classe moyenne
dans les pays de l'Europe du Nord,
se développe et est marquée par une progression sociale qui est claire et évidente et qui contraste de façon croissante avec les pays d'Europe du Sud. Les pays d'Europe du Sud, France en fait partie, sont marqués en revanche effectivement par ce monde décrit par Nardozzi où on n'a plus besoin des classes moyennes pour faire fonctionner le système de la même façon. Mais c'est une véritable illusion d'optique, c'est-à-dire que c'est l'illusion d'optique du fait que le projet social et collectif qui se maintient au nord de l'Europe se dissout en France notamment, et si on analyse les besoins sociaux de logements nouveaux, de développement d'une vraie éducation, pas de l'université low cost, dont Nanterre peut être un exemple. Et lorsqu'on s'intéresse à l'état de santé de la population, notamment du point de vue de l'obésité, des conditions d'alimentation et de 10 000 enjeux de santé publique en France, il y a des marges de développement social en France qui sont des marges de dimension considérable. Et effectivement, si en revanche on décide d'aller dans une autre direction, qui est la direction de l'accroissement des revenus et des pouvoirs d'une partie de la population qui fait fonctionner la finance et le reste, nous risquons effectivement d'aller dans une toute autre dimension. Mais si, je voulais juste revenir sur une question qu'on avait tout à l'heure, qui était celle de la stabilité politique. En fait, l'un des grands résultats de la sociologie depuis Randall Collins, c'est l'analyse de quand est-ce qu'une société est véritablement déstabilisée. Je suis assez confiant pour les trois prochaines années, les trois prochaines années, simplement parce que lorsqu'on analyse quand une société est fortement déstabilisée, on trouve trois paramètres. Il faut une très grosse dette qui rende impossible les manœuvres, les évolutions. C'est quelque
on
chose
en est
qu'on
pas
commence,
loin.
On commence à l'avoir bien, oui, c'est le premier critère est satisfait. Le deuxième critère, ce sont de très fortes frustrations. Avoir fait de grosses promesses et de ne pas pouvoir les honorer. Croître, par exemple, massivement la taille d'université sans avoir des places dans la société pour les jeunes que l'on a formés. Donc le deuxième critère est parfaitement satisfait, donc voilà. Mais le troisième critère ne l'est pas, en tout cas pas pour l'instant, c'est celui de la lutte interne entre les élites en place. En fait, dans la France contemporaine, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, le gouvernement, tout cela a la même couleur politique, en tout cas pendant les trois prochaines années. Et par conséquent, effectivement, le gouvernement se tient de façon ferme. Les pays qui connaissent une implosion de l'intérieur sont des pays marqués par une lutte interne, une lutte intestine des élites. Et c'est vrai que nous n'y sommes pas encore. Donc je pense que pour les trois prochaines années, ça ira.
Véronique Langlois, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque que précisément le caractère homogène des élites apparaissent aux classes moyennes comme précisément fasse apparaître les classes moyennes ces élites comme quelque chose de fermé sur elles-mêmes, d'irresponsable.
Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a effectivement un autre critère. D'ailleurs, j'avais envie juste de citer quand même un de nos Français que nous avons interrogé, puisque c'est tout de même, je dirais, la matière dans laquelle nous avons puisé. On a quelqu'un qui nous dit une société qui perd ses valeurs à une durée de vie limitée. Alors, c'est simple, mais c'est extrêmement clair aussi sur ce que ces gens-là ressentent. Le point majeur, c'est effectivement une société à une durée de vie limitée quand ses élites décident de divorcer d'avec son peuple. Et c'est précisément même aujourd'hui ce que ressentent les classes moyennes, avec derrière tout ce dont on parle, effectivement, un effondrement, ou en tout cas le sentiment que ce sont les derniers des Mohicans, les derniers à croire en un système fondé sur un certain nombre de valeurs, et puis le fait aussi de voir qu'à un moment donné, les élites n'ont strictement pas compris qu'à force d'étrangler les classes moyennes, c'est toute la société de consommation et la société des loisirs, je veux dire, qui n'est qu'une émanation qui part avec. Nous, on a tout de même été frappés de voir à quel point cette société à deux vitesses s'est développée, avec des gens qui, par exemple, nous parlent de l'alimentation, dont ils nous disent c'est tout de même, à un moment donné, un besoin vital. Comment se fait-il que nos enfants n'aient pas tous la même égalité et la même possibilité, je dirais, d'accéder à une alimentation correcte? Donc, effectivement, il y a les école, etc., dont on savait que cette question d'égalité se posait, mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que pour les gens, effectivement, ça touche des domaines qui peuvent être ceux de l'alimentation, avec d'ailleurs, dans cet univers-là, des phénomènes de carence énormes qui se développent, des gens qui en arrivent effectivement à opter pour des stratégies qu'on n'aurait pas imaginées à une époque, comme aller acheter dans les hypermarchés des produits périmés ou limite périmés, et décider de tout recongeler.
Mais là, vous parlez des classes moyennes. Oui, bien sûr. C'est pas les classes populaires, parce que là, il y a une question aussi de définition.
Justement, je parle des classes moyennes, c'est-à-dire de ces classes qui ne sont pas statistiquement pauvres et qui, effectivement, nous décrivent des comportements de vie typiquement de pauvres. En tout cas, je crois que le point important, c'est
ce qui est intéressant là-dessus, c'est effectivement l'indétermination même des mots. En fait, quand on pose la population française à quelle est votre classe sociale avec plus ou moins de diversité, de l'ordre de 70% de la population française se sent membre des classes moyennes. Et ce qui est extraordinaire, c'est de constater que des gens gagnant 800 à 1000 euros par mois pour un plein temps se sentent classe moyenne par leur appartenance, ne se sentent pas membres du prolétariat, des travailleurs, de la classe ouvrière, voilà, ou de l'équivalent des employés. Ils se sentent classe moyenne, mais la nature même, les conditions même de leur situation économique ne leur permet pas de partager les privilèges de la consommation des classes moyennes susceptibles d'être définies aux alentours de 2000 euros de salaire personnel pour un adulte, simplement parce que ça ne suit pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans les années 1970, les ouvriers, les employés aussi, assez souvent, étaient intégrés dans une vision collective de leur position dans la société qui était rappelée par le Parti communiste, par l'éducation populaire, par tout un ensemble d'institutions, les colonies de vacances et ainsi de suite, qui leur rappelaient véritablement où ils étaient et quelle stratégie de survie il était possible d'avoir dans ces conditions de catégories populaires, de membres des catégories populaires. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Les mêmes catégories se sentent membres des classes moyennes, soumises par la télévision à tout un ensemble de messages de consommation qu'ils ne peuvent réaliser, et leurs propres enfants subissent d'une façon extrêmement difficile, extrêmement violente, une confrontation entre les rêves de la société, les rêves qu'on leur propose, et la réalité objective dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui.
Je remercie Louis Chauvel, je rappelle que vous êtes sociologue et prof à Sciences Po. Vous aviez frappé un grand coup en 1998 avec Le Destin des Générations. Votre livre, Les classes moyennes à la dérive, est paru au Seuil, est aussi très intéressant. Merci Camille Pony, vous êtes sociologue, auteur de Le Déclassement, qui est paru chez Grasset cette année. Véronique Langlois, vous êtes co-auteur avec Xavier Charpentier de Les les nerfs solides, parole à vif de la France moyenne, et vous co-dirigez la société Free Thinking. Eduardo Narduzzi, merci d'avoir été avec nous au téléphone depuis Rome, où vous êtes professeur en technologie de la communication à l'Université de Rome. Vous êtes également chef d'entreprise et journaliste, et vous avez co-signé avec Massimo Gaggi La fin des classes moyennes ou l'avènement de la société low cost. C'était paru en 2006 chez Liana Levi.
Du grain à moudre, Brice Couturier, Julie Clarini, Nathalie Lempereur, Mathieu Sarda et Francesca Fossati. Tout de suite, la suite du 18-20 sur France Culture avec Laurent Goumard.